RFI, grand reportage,
Sonia Ghezali.
Rediffusion d'un grand reportage comme chaque jour de l'été. On prend aujourd'hui la direction de la Colombie, un pays où la paix se négocie avec deux guérillas actives. D'un côté les FARC, de l'autre l'ELN, l'armée de libération nationale. Un homme a fait de la paix un enjeu électoral avant d'être hissé à la tête de l'État le 15 juin 2014. Il s'agit du président Juan Manuel Santos. L'une de ses promesses de campagne était la fin de cette guerre qui dure dans certaines zone rurale depuis plus de 50 ans. Sur le terrain, l'attente de la population est doublée d'une appréhension très singulière, celle de l'après-conflit, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Véronique Guémard, dans le nord du département du Cauca.
Pour arriver à Toribio, il faut grimper dans la montagne, à partir de Santander de Quilichao, au sud-est de Cali, et passer trois barrages militaires.
Vous venez d'où ?
De Santander.
Vous allez où ?
À Toribio.
Sur la route de montagne recouverte de forêts et de cultures vivrières, nous passons devant des plantations de coca et des serres qui abritent des plants de cannabis. Tout au long du chemin, des inscriptions FARC 6e front, toutes fraîches du 50e anniversaire de leur mouvement. Diana, une jeune amérindienne de la communauté autochtone Nasa, qui gère les territoires où nous nous rendons, nous accompagne.
La peinture sur ce mur est récente. Avant, il n'y avait que des symboles de la garde indigène, qui est le drapeau rouge et vert, et aussi le blason du CRIC, le Conseil régional autochtone du Cauca. Par-dessus, il y a des graffitis de la guérilla des FARC, ce mouvement révolutionnaire. L'organisation autochtone, comme vous le voyez sur ces peintures, fait toujours allusion à la défense de la vie. Mais pour les saboter, la guérilla des FARC les recouvre et se réfère à la mort.
À la muerte.
Toribio, une municipalité très étendue de 26 000 habitants, est au cœur d'une région autochtone Nasa Paes. Les Indiens Nasa administrent leur territoire et tentent de rester en dehors du conflit, ni avec les FARC, ni avec l'armée. Mais ils se retrouvent pris en étau, comme l'explique Ezequiel Huitonas, le maire autochtone de Toribio.
Toutes les guérillas qui ont existé en Colombie sont passées par ici. Et celles qui sont restées sont les FARC, car c'est un site montagneux qu'elles connaissent bien et qui rend l'accès difficile aux forces armées. Donc elles ont toujours été dans ce combat.
Luis Alberto Mensa est un garde indigène. Non armé, il assure la sécurité des habitants contre tous les combattants, y compris l'armée.
Ici, c'est la zone la plus touchée. C'est la place principale de Toribio. Ce matin, à l'aube, il y a eu un bombardement. On parle de deux guérilleros morts. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans une localité qui s'appelle El Rocio, à 6 heures d'ici. Ici, au centre-ville, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas de tir, mais quand ça tire, c'est tous les jours. Ça vient de ces trois endroits de la montagne.
Les tirs sont dirigés vers le poste de police, transformé en bunker avec des sacs de sable empilés. Le lieutenant Marco Molina dirige le poste depuis quelques mois.
Ici, on a le 6e front des FARC qui en soutient deux autres. Autour de la municipalité, il y a beaucoup de cultures illicites. Toribio, dans le Cauca, est en Colombie un point de référence pour la multiplicité des attentats. Le plus important s'est produit en 2012, avec une bombe incendiaire qui a rasé toutes les maisons autour. Vous voyez, on n'a plus de voisins, car l'onde de choc a tout détruit. Le poste de police a résisté, car c'est un bunker. Ces jours-ci, c'est calme. Mais on ne peut pas baisser la garde. Ils tirent de cette montagne, celle-ci, celle-là, de toutes parts, de là-haut. Ils ont la vue sur le poste de police. Avec des mitraillettes, des fusils et des armes artisanales, comme les cylindres, des bonbonnes de gaz, et les tatucos, des mortiers. Ils utilisent surtout les mortiers, qui ont une portée de 3 km. Ils ne sont pas très précis et détruisent aussi les maisons.
Sur la place centrale, des enfants jouent au basket. Mario a 11 ans. Il sait ce qu'il doit faire quand il y a des tirs et dit qu'il n'a pas peur.
On doit se mettre contre un mur.
Si on est en groupe, on court se réfugier dans un magasin, parce qu'on peut être touché par une balle perdue, donc on doit courir. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Ça tire vers la place ici ou vers le poste de police. Une fois, il y avait une grenade ici, sur la place.
Isabelle a un commerce sur la place. Elle n'est pas tranquille lorsque ses enfants sont à l'école, mais ils savent quelle est la procédure. La paix, elle n'y croit pas trop.
Le processus de paix, c'est un mensonge. Peut-être que je suis trop négative, mais je ne pense pas qu'il y aura la paix en Colombie. Trop de corruption, tout ce qui compte, c'est l'argent. Je ne crois pas en la paix. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Avec tout ce qu'on vit ici à Toribio, on est les seuls à le savoir.
Alors qu'à La Havane, des discussions de paix sont engagées, ici à Toribio, les tirs n'ont pas cessé, comme l'explique le gouverneur Sneider Gómez Salamanca.
Desde el año 83 a la fecha ha sufrido 14 tomas guerrilleras.
Depuis 1983, la ville a été prise 14 fois par les FARC, dont deux très dures, en 2002 où elles ont détruit le bunker de la police, et en 2005 où elles ont détruit la moitié du bourg. Puis en 2011, il y a eu une bombe incendiaire, puis une bombe au palais de justice. Ce sont des indicateurs assez parlants. À l'intérieur de la ville, depuis 2003, on a souffert plus de 700 attaques, sans compter tout ce qui se passe dans les zones rurales. La situation est compliquée et nous touche directement.
Nous avons rencontré lors de ce reportage un ancien guérillero des FARC, démobilisé en 2007, qui a participé à l'attaque contre Toribio en 2005. Il raconte cette prise de la ville qui a été meurtrière.
On s'est battu pendant plusieurs jours. Il y a eu beaucoup de morts. Ça a été un assaut très compliqué. Moi, j'étais plutôt dans la montagne. On est descendu quand c'était pratiquement fini, puis on est retourné dans la montagne parce que beaucoup de nos compagnons avaient été tués. C'était vraiment très chaud. C'est là que je me suis découragé et je me suis démobilisé 2 ans plus tard. Ce que disent les commandants de la guérilla, c'est « on attaque les villages, mais on n'attaque pas la population, on attaque la force publique ». Mais celle-ci se trouve au milieu des villages, donc les communautés sont touchées. Il y avait souvent des plaintes des communautés contre la guérilla, car des bombes tombaient sur des maisons et beaucoup de gens, dont des enfants, étaient tués. Et leur réponse, c'était « c'est la guerre, et dans la guerre meurent des innocents et des coupables ». Voilà ce que disaient les commandants, et on ne pouvait rien faire.
Le mouvement de la jeunesse autochtone tente de dissuader les jeunes de s'enrôler dans les FARC, dans des groupes paramilitaires ou de consommer de la drogue, comme le raconte son coordinateur Erleimus.
Oui, dans le bourg de Toribio, il y a plus d'une centaine de jeunes qui font partie des groupes armés. Le contact avec eux est difficile. Parfois, leurs familles tentent d'aller les chercher dans la montagne, mais c'est pas facile de rétablir le contact. Ils font partie de notre groupe qui les cache, donc c'est compliqué avec ces jeunes qui partent.
Certains choisissent de partir et de tenter leur chance ailleurs. Milton, lui, a monté une petite entreprise d'encadrement de fenêtres.
Ce sont des encadrements de fenêtres que les gens me commandent et moi je les fabrique. Je prends toutes les commandes, même d'autres municipalités jusqu'à Santander. J'aime bien ce travail. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on est au milieu du conflit, pas comme d'autres qui sont au calme. Mais nous, on est d'ici, on est né ici et on mourra ici.
Milton serait bien parti pour trouver un meilleur travail, mais pour aller où ?
On doit rester ici, où est-ce qu'on irait sinon ? On a notre terre. Pour partir, il faudrait déjà avoir de l'argent pour acheter un petit terrain. Mais cette terre autochtone, on ne peut pas la vendre. Si j'avais de l'argent, je pourrais aller ailleurs, pour un meilleur avenir, où il n'y aurait pas de conflits armés. Mais ici, en Colombie, c'est difficile, car où qu'on aille, il y a la guerre. Sinon, ce sont les paramilitaires. Et quand on arrive quelque part, on est taxé de guérilleros. Donc, on doit rester ici, travailler, créer des emplois et regarder vers l'avenir.
La nuit, les montagnes luisent de centaines de petites lumières. Ce sont les serres où les lampes restent allumées pour favoriser la croissance du cannabis. Ezequiel Vitonas, maire de Toribio.
Ce qui est apparu il y a quelques années ici, c'est la marijuana creepy, une semence améliorée venue des États-Unis. On dit qu'il y aurait une alliance entre les groupes issus des paramilitaires et les FARC. Aucun produit licite n'est capable de concurrencer le prix de la marijuana creepy.
Ceux qui cultivent la coca ou la marijuana reprochent au gouvernement de ne pas soutenir d'alternatives viables, comme l'explique Gabriel Pavi Hulukue, conseiller autochtone.
Ici, les gens sèment du café et le cours baisse. Ils sèment du maïs et ça ne se vend pas. Des haricots et les prix baissent. Il n'y a pratiquement pas de soutien à l'agriculture, pas de subventions et pas de commerce. Donc c'est plus facile de commercialiser les produits illicites que les produits légaux. Sur ce point qui est en discussion à La Havane, le point 3 sur les solutions aux drogues illicites, je crois que les FARC proposent des alternatives. On espère qu'il y aura une bonne proposition, des crédits pour soutenir les gens avec des solutions de substitution pour des produits légaux qu'on pourra consommer et commercialiser.
Même le lieutenant de police, Marco Molina, en convient.
Depuis les hélicoptères, on perçoit où sont les laboratoires. On voit les plantations de marijuana et de coca, mais c'est complexe à éradiquer. Tant que le gouvernement ne mettra pas en place des plans d'aide aux paysans pour qu'ils arrêtent ces cultures, les groupes armés leur offrent cela comme moyen de subsistance. Les paysans la cultivent car ils n'ont pas le choix. S'ils avaient des cultures de substitution, ils auraient alors le choix.
Les communautés Nassa proposent des alternatives, projets d'élevage de truites, usines de mise en bouteille de jus de fruits ou encore culture de la gulupa, un fruit sauvage prisé à l'export. À quelques kilomètres de Toribio à moto, Hernan cultive 2 hectares. Il a consacré 0,5 hectare au projet de substitution à la coca en cultivant la gulupa avec l'aide de l'ICA, l'Institut colombien d'agriculture.
C'est intéressant pour nous, pour générer des revenus et améliorer notre qualité de vie, pour soutenir notre famille, pour les études, pour la santé. Mais pour vendre à l'exportation, il faut être certifié par l'ICA. Le prix à l'export est de 3 500 pesos le kilo, 1,30 euros. Mais le prix national n'est que de 700 pesos, 27 centimes d'euros.
Hernan a dû défricher un champ qu'il utilisait pour ramasser le bois, récolter les fruits, le café, pour sa subsistance. Il a dû suivre des formations pour les fertilisants qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Des contraintes difficiles à surmonter.
Au
départ, j'étais très enthousiaste parce qu'on m'avait dit que c'était commercialement intéressant pour l'exportation, pas comme d'autres produits qui n'avaient pas marché. Mais avec toutes les conditions, j'ai commencé à me décourager. J'ai eu des problèmes avec ma famille parce que j'ai dû couper les plants de café, et quand est venu le moment de la récolte, il n'y avait plus de café, on n'avait plus d'argent et la gulupa ne poussait pas bien. Donc oui, j'ai regretté, mais j'essaye de surmonter ces difficultés. Quand ils sont venus récolter les fruits, j'ai vu que ça pouvait devenir rentable. J'essaye de montrer cet exemple à mes voisins ici qui ont des champs de coca, vous voyez, ils viennent voir ce que ça donne.
Aujourd'hui, la région autochtone autour de Toribio compte 120 producteurs de gulupa, mais beaucoup se découragent. Enfin, un autre danger guette les communautés Nassa et Paes, l'exploitation minière, légale ou illégale, et la multiplication des bandes armées pour contrôler ces territoires, ces ressources et ces trafics, une fois les FARC démobilisés. C'est ce que craint le conseiller Nassa, Gabriel Pavi.
Il pourrait y avoir d'autres bandes criminelles et cela peut continuer à nous affecter, comme ce qui se passe avec les paramilitaires. Ils sont censés être tous démobilisés, mais ce n'est pas vrai. Ils ont monté d'autres groupes, les Aigles Noirs, les Bakrim, les bandes criminelles et plein de groupes qui continuent à opérer. Donc on a peur que si pendant le conflit on a été touché, eh bien ce soit encore pire dans le post-conflit.
Sur cette musique de la communauté Nassa s'achève ce grand reportage de Véronique Guémard à Toribio en Colombie. Réalisation Marc Minatel.
Un reportage de Véronique Guémard. Découvrez tout au long de l'été les artistes en playlist RFI. Aujourd'hui, Lucas Santana et Fefe avec le titre Diary of Bike, extrait de son dernier album Sobre Noites y Días, qui fait partie de la sélection du mois de nos programmateurs et que l'on retrouve tout l'été en playlist RFI.
S'arrêter et s'il est